Alors, bonjour tout le monde. Alors, je ne vais pas me mettre derrière, sinon vous n'allez pas me voir, parce que moi, je ne suis pas très grande. Je ne m'appelle pas Mathieu ou Olivier. Donc, je vais me mettre sur le côté. Alors, du coup, c'est moi qui ai le privilège de vous apporter vraiment le message ce matin. Et en fait, on est dans le... Pour ceux qui n'étaient pas là, ou qui sont nouveaux invités, on est dans une série, ça fait plusieurs semaines qu'on partage le dimanche sur une série de messages qui est « Être des disciples » qui font des disciples. Et donc, on a commencé ça dans le sens où, donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vraiment, dans la Bible, Jésus envoie ses disciples par toutes les nations pour faire des disciples. Et ce n'est pas juste parler de Dieu et puis voilà, génial, voilà. Non, des disciples, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est transformé, dont la vie est transformée. Les disciples ont été transformés par Jésus. Et eux-mêmes, ont, de par leur message, de par ce qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux, ont transformé des gens par la puissance de Dieu, bien sûr, qui, après, c'est des disciples qui transforment des gens, qui transforment, et c'est des disciples qui font des disciples. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a à cœur de vivre, c'est pas juste quelque chose où, on parle de la bonne nouvelle, de Jésus et tout ça, mais on veut vraiment voir des fruits, des résultats, que les gens puissent être transformés, puissent vraiment être réconciliés avec Dieu, et que ça puisse être un effet boule de neige impact, quoi. Donc, on est dans le cadre de cette série-là, donc c'est pour resituer un petit peu. Et donc, moi, j'avais vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui sur le thème de accueillir vraiment et faire grandir le feu de Dieu dans nos vies. Et donc, la Bible parle beaucoup du feu. Il y a beaucoup, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça parle beaucoup du feu. Le feu peut avoir différentes significations dans la Bible, mais une des significations, une des symboliques du feu, c'est vraiment la présence et la puissance de Dieu. Et donc, moi, c'est vraiment cet aspect-là quand je vais parler. Donc, je vais parler pas mal du feu dans mon message, mais c'est vraiment en parallèle avec cet aspect-là que je veux du feu, vraiment la présence et la puissance de Dieu dans nos vies qui est à l'œuvre et qui vraiment change les vies, qui transforme les cœurs. Et donc, c'est un message un peu particulier. En fait, il y a... je vais le baser un peu sur une expérience que j'ai faite il y a 15 jours. En fait, on était... l'an dernier, je faisais une formation. Et on est allé prier dans différents endroits, dans les Cévennes, pour ceux qui connaissent, c'est le pays des Huguenots, il y a des siècles en arrière, c'est vraiment un peuple qui avait une foi vraiment puissante en Dieu et qui ont été persécutés pour leur foi. Et en fait, on est allé prier avec toute une équipe de prière à un endroit particulier où en fait, pendant un temps, ils avaient eu un petit laps de temps donné par le... Donc, c'est pas le gouvernement, on dit pas le gouvernement, mais par les autorités. En attendant une négociation, il y a eu 8 jours où, en fait, un envoyé du roi a dit, vous avez le droit, OK, de faire ce que vous voulez pendant 8 jours. Après, quand je reviens, là, entre guillemets, c'était le soldat qui revenait. Et là, ils n'avaient plus vraiment, plus du tout le droit de se réunir. Et donc, on est à un endroit où c'est dans la montagne, donc dans la garrigue. Donc, c'est au bord des Cévennes, là, c'est plus vers l'Avonage. Et donc, dans la montagne, magnifique et tout. Et c'est un endroit où qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était des centaines d'années. Ils se sont retrouvés pendant ces 8 jours, d'après les chiffres les plus faibles, ils étaient 20 000 personnes réunies jour et nuit pendant 8 jours. Juste hommes, femmes, enfants, pour chercher Dieu, pour louer Dieu, pour vivre des choses extraordinaires. Et c'est un endroit qui a été reconnu et qui, maintenant, on peut... Enfin, il y a un petit chemin de randonnée et tout, on peut aller, on voit même un peu le rocher où... Ils partageaient la parole de Dieu ou vraiment ils se prophétisaient. Et il y avait même, maintenant, ils utilisaient un, comment on appelle ça ? Un abreuvoir pour les brebis, où c'est là où ils faisaient les baptêmes. Donc, du coup, ils devaient sentir bon après, ça va être intéressant. Mais, et du coup, on est allé là-bas prier. Et vraiment, on avait senti, Dieu nous avait parlé en tant qu'équipe, que là-bas, et bien sûr dans d'autres endroits, en France et dans d'autres époques et tout ça, mais c'est comme si... C'était des temps de rencontre avec Dieu. Quand ils allaient là-bas, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des prodiges, il y a eu des choses incroyables qui se sont produites. Et c'est comme si c'était des... Vraiment, ils ont vécu, je dirais, le feu de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, la présence et la puissance de Dieu étaient intenses, étaient palpables. Et ce que Dieu a fait, il veut le refaire. Et ce qu'il a commencé, ça a été arrêté parce qu'il y a eu plusieurs, justement... décrets qui ont tout fait pour justement arrêter cette foi-là, mais Dieu, rien ne l'arrête, on est bien d'accord. Et en fait, nous, notre désir aujourd'hui, c'est que ce que Dieu a commencé, qu'il puisse l'achever. Et c'est pour ça, donc, on est allé prier là-bas. Et donc, on avait vraiment un cœur, on sentait que Dieu voulait nous parler justement sur ce feu, le feu de Dieu, le feu qui veut rebrûler en nous, dans nos communautés, dans nos villes. C'est des choses extraordinaires. Donc, les chiffres les moindres, c'était 20 000 personnes. Et dans certains documents, on trouve 40 000 personnes. Donc, je m'arrête à 20 000 au cas où. Mais c'est déjà quand même pas mal. Et donc, en fait, pendant qu'on priait là-bas, donc, ah, ça, c'est, oui, c'est un peu une image, juste, j'ai retrouvé une image. En fait, ça, c'est une peinture, hein, c'est pas l'endroit, mais bon, c'est quand ils se retrouvaient comme ça, en plusieurs endroits, ça s'appelait les assemblées du désert. Et donc, on voit pas très bien, mais il y a une maman avec un petit bébé, il y a un berger, il y a vraiment chacun arrivé comme il était, vraiment juste assoiffé d'entendre la parole de Dieu, assoiffé vraiment de grandir dans la foi. Et on priait, et pendant qu'on priait, pendant qu'on louait Dieu, d'un coup, j'ai vu dans mon esprit plusieurs personnes arriver au chemin, donc je les voyais sur le chemin, arriver à cet endroit-là. Ça me fait encore... Désolée, c'est des émotions, parce que c'était tellement fort ce que j'ai vu. Et c'était juste, en fait, ces gens qui venaient à ce rassemblement. Et je les voyais, ils avaient des habits pleins de transpiration, ils avaient marché pendant des heures. Certains avaient le ventre vide, ils avaient été affamés. Enfin, affamés, dans le sens où ils avaient envie de voir Dieu agir. Donc, ils étaient venus à ce rassemblement peu importe le prix, quoi. S'ils n'avaient pas mangé la veille, depuis la veille, c'est pas grave. Ils avaient tellement envie de voir Dieu agir dans leur vie qu'ils étaient en marche. Et il y avait des femmes, j'ai vu une femme enceinte, il y avait des enfants qui étaient là, qui avaient les pieds un peu gonflés tellement ils avaient marché. Mais leur désir et leur soif de voir Dieu agir, de rencontrer Dieu, était plus fort que toutes les difficultés, que tout ce qui pouvait se mettre dans leur chemin. Et c'est cette image, vraiment, Dieu m'a parlé par cette image et par ce feu. Et c'est vraiment juste trois aspects, du coup, que je vais développer un peu tout au long de ce message. Il y avait trois points principaux par rapport à ce que Dieu veut faire dans nos vies pour qu'on puisse revivre à nouveau ce feu, pour voir ce feu de Dieu, cette présence de Dieu, cette puissance de Dieu dans nos vies qui fait que les guérisons seront encore plus présentes, que vraiment la gloire de Dieu sera plus présente, que vraiment les prodiges, on est allé dans des endroits où, écoutez bien, ils appellent ça la mémoire, la parole, je ne sais plus quoi. En fait, dans toute une vallée, ils entendaient les anges chanter. Les anges chantaient tellement la présence de Dieu était là. Il y avait comme une école de louanges. Et en fait, c'est encore les anciens qui le racontent aujourd'hui. Dans toute la vallée, ils entendaient des anges dans le ciel. Ils entendaient des chants la nuit dans les hauteurs, quoi, dans le ciel. Et c'est vraiment ce que on croit que Dieu peut le faire, pas juste pour entendre les anges chanter. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et qui veut toucher les cœurs, qui veut consoler ceux qui sont affligés, qui veut guérir. Donc le premier aspect était la soif de Dieu. Ces gens, quand vraiment j'ai vu ces gens arriver, ils étaient juste affamés de Dieu. Il n'y avait qu'une chose, ils voulaient rencontrer Dieu. Et ça, c'est le premier aspect pour vraiment voir ce feu de Dieu dans nos vies, dans nos communautés, c'est avoir une soif de Dieu qui est... la plus grande possible. Et donc, on peut s'imaginer que certains, pour venir à cet endroit, ils avaient laissé leur travail en plan, ils avaient marché des kilomètres et tout ça. Et pour faire un feu, alors j'aime bien, je suis un peu imagée, c'est vraiment, un feu, on ne peut pas le faire n'importe où, on est bien d'accord. Maintenant, cet endroit, c'est comme une forêt. Un feu, on ne peut pas faire un feu entre deux buissons, entre des broussailles, sinon, notre feu, on ne va pas le... Voilà, c'est pas possible. Pour accueillir un feu, il faut qu'il y ait un espace. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plat, de aplani, un espace préparé. Et sinon, on va montrer que ça, c'est un peu comme justement notre soif de Dieu. Il faut que dans notre cœur, il y ait cet espace-là pour accueillir Dieu. On peut pas, si on veut voir le feu de Dieu dans nos vies, on ne peut pas juste passer Dieu entre deux priorités, entre deux activités de nos vies. Non, il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut que dans notre profond intérieur, Dieu, il ait une place particulière et qu'on va volontairement lui faire un espace pour que lui puisse venir, pour accueillir son feu. Et c'est donc dans la Bible, c'est ma Bible là-bas, je vais paraphraser, dans l'Ancien Testament, un prophète qui s'appelait Élisée, que Dieu a envoyé voir auprès d'une veuve pour séjourner un petit peu chez elle. Donc il va la voir et en fait cette veuve lui dit mais oui je peux t'accueillir. Enfin non, elle dit pas de oui. Elle lui dit je vais te faire à manger et puis voilà on va s'enfermer avec mon fils et en fait, on va mourir parce que j'ai plus que. Elle n'avait plus rien, quoi. Et alors, ce prophète lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Elle lui dit, ben, j'ai plus qu'un flacon d'huile. Il dit, bon, et ben, du coup, rentre chez toi avec ton fils et déjà, va chercher tous les récipients que tu trouveras partout où tu trouves. Donc, tout des, peu importe ce que c'est, des récipients vides. Alors, cette dame, elle va chez les voisins, chez la famille, elle frappe dans toutes les portes, elle ramasse tout ce qu'elle peut. Des vases, des jarres, des gros, des petits, des moyens, tout ce qu'elle peut. Il lui dit, maintenant, mets-les chez toi. Ferme la porte avec ton fils, tu vas verser ce petit flacon d'huile dans tous les récipients que tu as trouvés. Et voilà, il lui dit ça. Et elle commence à verser de l'huile. Et au fur et à mesure qu'elle verse ce petit flacon d'huile dans ses récipients, l'huile ne s'arrête pas. C'est comme si ce flacon devient illimité, infini. Et du coup, elle se met à remplir des récipients entiers. Et donc ça, c'est dans 2 Rois 4. Et à la fin, donc au verset 7, au verset 6, il est écrit « Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Mais il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Et j'aime beaucoup, il y a ce « Alors l'huile s'arrêta. » C'est-à-dire que s'il y en avait eu d'autres, certainement, l'huile aurait continué. Or, il n'y en avait plus d'autres. Et l'huile, dans la Bible, c'est un symbole aussi du Saint-Esprit. Ça représente le Saint-Esprit. Et dans ce feu, pareil, ce feu qu'on dit, c'est-à-dire qu'avoir une soif de Dieu, avoir un espace dans notre cœur suffisamment grand pour que Dieu n'a qu'une envie, comme c'est un Dieu d'amour, c'est de venir remplir cet espace. C'est comme là, elle a rempli autant de jarres vides qu'il y avait. Et l'huile a... Voilà, et après, elle a pu vendre ça, elle a pu payer ses dettes, cette dame a pu être sauvée, en fait. Enfin, son fils, du coup, n'est pas parti parce qu'il devait être vendu, comme elle n'avait plus d'argent et tout ça. Et donc, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette histoire qui symbolise vraiment notre soif de Dieu et vraiment ce côté d'avoir vraiment des attentes, que notre cœur soit tellement grand, large, plus on veut de Dieu, mais plus il va vouloir nous remplir et plus il va le faire. Donc, le premier aspect, vraiment, c'est notre soif de Dieu. Et ces gens, je pense qu'ils sont venus, ils devaient avoir une soif de Dieu qui, des fois, je me dis, est-ce qu'elle n'était pas un peu plus grande que la mienne aujourd'hui encore? Et ça, c'est la question qu'on se pose. À quel point on a soif de Dieu? Quelle est notre soif réelle de Dieu? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Et des fois, il ne faut pas avoir peur. Cet espace-là, pour préparer un espace pour le feu, des fois, il faut peut-être pousser des cailloux, enlever des brindilles, il faut faire de l'espace. Et dans nos vies, il y a des domaines où certainement on a besoin aussi de faire de l'espace. Et c'est aussi un encouragement dans notre cœur à enlever tout ce qui, voilà, tout péché, toute impureté, tout ce qui pourrait empêcher le feu de Dieu de venir et de prendre la place qu'il a besoin de prendre. Et ça, c'est aussi un encouragement. Ce psaume qui dit « Qui montera la montagne de l'Éternel ?» c'est celui qui a les mains lavées et le cœur pur. Et il y a vraiment ce côté dans la pureté, dans vraiment le fait d'avoir des outres dans nos cœurs, des outres vides de toute saleté ou de quoi que ce soit. C'est là où vraiment on pourra accueillir pleinement un feu pur et un feu brûlant. Donc, premier aspect, la soif de Dieu. Le deuxième, qui m'a vraiment parlé lorsque j'ai eu cette image, c'est donner de soi à Dieu. C'est-à-dire, ces gens, quand je les ai vus, donc comme on l'a dit, ils étaient prêts à payer le prix. C'est-à-dire que peu importe où c'était, si c'était le jour, si c'était la nuit, ils ne sont pas pris, peut-être ils ont pris un petit sandwich au début ou un petit pique-nique, mais pour 8 jours, je pense que ça va être un peu limité et je ne suis pas sûre que les 20 000 personnes et soit descendu faire un petit drive ou j'en sais rien, à l'époque, voilà. Peut-être qu'ils ont prié pour une multiplication de nourriture, ça on ne sait pas. Peut-être que ça a marché. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont payé le prix qu'il fallait. Les enfants, je pense que marcher pendant des heures et des kilomètres, nous on fait des petites randos, un peu ça va. Il n'y avait pas les porte-bagages, il y avait les porte-bébés. Je pense qu'au bout d'un moment, eux aussi, les enfants, ils ont payé le prix, quoi. On portait un peu peut-être sur le dos de tata, papa, maman, mais à un moment donné, eux aussi, ils ont dû être courageux. Je pense que tout le monde avait été prêt à faire ce pas-là pour voir Dieu agir. Et c'est dans les montagnes un peu. Du coup, pour faire un feu, eh ben, il faut des bûches. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que vraiment... Ah oui, ça m'imagine. Merci, merci. Un petit rappel. Que ce qu'on va donner à Dieu pour alimenter ce feu que Dieu veut faire brûler en nous, il faut forcément du bois. Il faut des bûches. Et ce bois, il vient de qui ? Il vient de moi. C'est-à-dire que mon feu à moi, je vais devoir mettre des bûches, pas de la bûche de la vie de l'autre, ok ? Les bûches de ma vie, bien sûr, c'est imagé, je dis bien ça, on ne sommes pas des pyromanes, c'est dans le sens imagé, c'est donner des parties de ma vie à Dieu qui vont pouvoir permettre, ou que Dieu va pouvoir embraser, consumer, pour pouvoir permettre à son feu de brûler en moi. Et en fait, la première, je dirais, braise, la première flamme qui vient dans ma vie, c'est quoi ? C'est Jésus. C'est-à-dire que Dieu, depuis la fondation du monde, il a créé l'homme et la femme, il a créé Adam et Ève. Ils étaient en parfaite harmonie, ils se parlaient ensemble dans le jardin, c'était le bonheur, c'était le rêve. Et c'était son but. Ils avaient la terre et tout ça, c'était voilà, le jardin, c'était super. Mais par leur péché les a séparés, nous a séparés de Dieu. Et depuis, il y avait un grand gouffre. Et ce grand gouffre, comme on le sait, qu'est-ce qui pouvait séparer juste, qu'est-ce qui pouvait empêcher, enfin nous faire retrouver Dieu ? Il fallait forcément que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait forcément qu'il y ait du sang qui soit versé. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils faisaient des sacrifices pour que Dieu leur pardonne leurs péchés, pour qu'ils aient un nouveau accès à Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a supporté ça un temps, mais après, c'est plus possible. Il a dit maintenant, moi, c'est possible, je vais payer le prix, je vais envoyer mon fils, ça sera le vrai, le parfait sacrifice. Comme il est parfait, il meurt une fois et c'est pour tout le monde. Et après, tout le monde peut avoir accès à Dieu. On peut juste demander, accepter Jésus dans notre vie, demander pardon pour nos péchés. Dieu, il est là avec nous. On a accès direct. Et ça, c'est quelque chose que... Non, c'est sincèrement, ils auraient tous rêvé d'avoir, j'avoue. Mais... Et grâce à ça, au partir du moment... Et ça, c'est le, voilà, ça, c'est vraiment le message du salut. C'est gratuit. À partir du moment où on accepte Jésus juste dans notre cœur, par grâce, par ce cadeau, c'est comme si Dieu vient allumer, vient mettre la flamme dans notre cœur. Il vient mettre son esprit dans notre cœur. Cette petite flamme, après... C'est à nous de l'entretenir, c'est à nous de la faire grandir en un feu qui puisse être un feu qui va embraser ceux qui sont autour de nous. Comme on l'a dit, on est dans une série de faire des disciples qui font des disciples. Et si nous, on a le feu de Dieu en nous, on n'aura même plus besoin de, je dirais pas de parler de Dieu autour de nous, si, mais quand même, le feu va se communiquer quoi qu'il en soit. Donc voilà, Dieu a mis sa petite flamme en nous. Et en fait, notre but après, ben, c'est à nous de mettre des bûches, c'est à nous de cultiver ce feu pour qu'il prenne. Et c'est quoi ces bûches ? Ben, ça peut être des choses que Dieu nous demande. Ce n'est pas forcément des mauvaises choses, parce que c'est vrai que nous, dans le feu, des fois, on aime bien mettre du bois un peu pourri, un peu sec, pas très beau. Ça va, ça passe. Donc, dans ma vie, il y a des choses que je peux te dire, « Seigneur, ça, je te le donne, ça ne me dérange pas. » Après tout, voilà, je peux lui donner mes domaines de, je ne sais pas moi, pour certains, mes finances, moi, ça ne me dérange pas. Okay, bon, pour certains, il y a des choses, ça ne nous dérange pas de donner à Dieu. Ça va. Mais il y a des fois un cap. Alors, j'ai pris, parce que j'aime bien illustrer. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'au début, en effet, ce qu'on va donner à Dieu, souvent, ce sont des petites brindilles de mon jardin. Mes enfants aiment trop ramasser plein de petits bois. Des brindilles. Donc là, c'est les choses que je donne à Dieu au début pour que ce feu prenne. Et j'avoue, un feu au début, Dieu nous demande des petites choses. Ok ? Un feu au début pour qu'il prenne, si vous aimez faire des barbecues, on commence avec des petits. Avec du petit bois. Donc ça peut être des petites choses. Est-ce que. Voilà, et si Dieu me demandait de lui donner, je sais pas moi, une soirée par semaine de temps en temps, où au lieu de regarder ma série préférée, ben, je passe du temps à lire ma Bible. Voilà, c'est peut-être. Ça me coûte un peu quand même, c'est un peu du don de soi, ça me coûte. Mais peut-être que voilà, c'est une petite brindille. Me lever un peu plus tôt le matin pour passer, comme disait Mathieu, du temps avec Dieu. Et à un moment donné, ben forcément, le feu, ça va être pas mal comme ça, mais j'aurai pas un grand brasier. Il faudra mettre un peu plus. Et donc j'ai pris la seule petite bûche que j'ai trouvée dans mon jardin. Voilà, le sapin de Noël de l'an dernier. Faut pas le dire, mais mon fils l'avait gardé. Et il y aura un moment où, si je veux cultiver ce feu-là, j'ai besoin de donner des choses qui vraiment ont de l'importance, plus pour moi. Ça peut être plus davantage mon couple, ma vie de prière, mon adoration. Et là, c'est des bûches qui n'auront pas le même poids. Et c'est du bois qui va faire durer le feu plus longtemps. Le feu sera plus chaud. Il résistera plus au vent, à la pluie. Et ça, ça m'a vraiment interpellée. Et je précise bien, il y a un verset qui dit dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, l'obéissance est préférable au sacrifice. C'est-à-dire que des fois, en effet, quand on donne de soi, c'est comme un sacrifice, on fait un sacrifice. En effet, Dieu, il préfère l'obéissance directe. Mais il y a une part de sacrifice. Des fois, l'obéissance directe aussi, ça nous coûte. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable sur le coup. Et nous, un petit exemple, avec Olivier, c'était des sacrifices. On a fait la vie avec Dieu. Ça serait faux de dire c'est génial, c'est pas un club, quoi. C'est pas une philosophie. En fait, la vie avec Dieu, c'est un changement de vie. Et dans un changement de vie, il y a forcément une partie d'un changement de soi. Un sportif de haut niveau, s'il veut atteindre remporter sa course, il faudra qu'il ait une discipline, une hygiène de vie personnelle, un régime alimentaire, peu importe. Et nous, dans notre vie, c'est pareil. Et avec Olivier, on est parti il y a 7 ans, en Angleterre pour se former. Et on avait senti que Dieu nous demandait. Donc, il n'y avait même pas, c'était de l'obéissance. Mais on savait que si on voulait plus dans notre vie, là, pour allumer le feu, il fallait donner de notre temps, il fallait donner de notre argent. Et en fait, on a passé toutes nos économies, on a économisé pendant 2 ans tout ce qu'on pouvait pour payer ce voyage et cette formation en Angleterre. Et je me rappelle au début, ça, c'était quand même un sacrifice parce que tous nos amis se mariaient, beaux-frères, belles-sœurs, tout le monde se mariait. Moi, je rêvais d'avoir une super liste de mariage où je pourrais acheter plein de choses et tout. Et non, on a dit non, on ne fait pas de liste. On économise. Et parce qu'on va partir, on va se former, on sent que Dieu nous appelle à ça. Et on a un peu pris un chemin différent de la plupart de nos amis. Des fois, ça nous a coûté. On s'est dit, purée, on est encore dans un petit logement meublé. On n'avait pas un rond quand on est rentré. On était au chômage. Vraiment, sur le coup, ça a coûté. Mais ce qu'on a vécu là-bas, mais je me dis, ça, c'est... On a mis une grosse bûche, mais elle brûle encore aujourd'hui, cette bûche. Et je pense qu'il y a des choses dans nos vies, si vous sentez peut-être un palier, ou vous dire, mais j'aimerais voir plus Dieu agir dans ma vie, mais pourquoi il n'y a pas plus? Et peut-être posez-lui la question, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que je peux te donner, que tu me demandes? Est-ce qu'il y a un petit bois, un gros bois, et peut-être qu'il y a quelque chose à lui donner qui va permettre au feu de prendre, de reprendre, et qui va durer plus longtemps? Et je pense que ça, c'est vraiment un encouragement de se poser la question, vraiment être honnête avec Dieu. Il ne demandera pas tous les mêmes choses. Mais petit à petit, si on veut voir Dieu agir dans nos vies encore davantage, comme il s'est passé à l'époque des Huguenots et dans d'autres endroits, même dans d'autres pays, en France ou à l'étranger, je veux dire, des réveils, il faut qu'il y a une part de sacrifice, il y a une part de don de soi. Et ça, on ne peut pas le négliger. Mais c'est un sacrifice qui est beau. Et ça, je veux le redire, ce que Dieu demande, le plan de Dieu, la Bible dit, car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est la Bible qui le dit. Donc, en ce que Dieu demande, ce n'est pas un sacrifice où je suis dégoûtée et où j'aurai des fruits minables. Non. Si Dieu me le demande, c'est quelque chose qui va apporter de la joie. Et nous, ces sacrifices, on les a faits, mais on les a faits avec joie. Parce qu'on savait que le prix derrière serait au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et je pense que ça, c'est aussi une clé dans ce fait des bûches qu'on met dans notre feu, c'est de se dire, ce n'est pas une bûche pour rien. Et moi, il y a quelques... C'était au début du Covid l'an dernier, je crois, ou je ne sais plus, où le Seigneur m'a vraiment parlé. Mon fils commençait à faire des siestes bien régulières l'après-midi. Et je me suis dit, tiens, je vais en profiter. J'ai senti que Dieu me demandait de prendre un temps de sa sieste par semaine où vraiment, là, c'était du temps, mais qu'avec Dieu, peu importe l'état de ma maison, peu importe s'il restait de la pile, de la vaisselle dans la cuisine, tout ça, que c'était un temps spécial. Et j'ai vraiment, d'un côté, ça m'a coûté, mais le fait d'avoir fait ça, mais j'ai vu des fruits, mais incroyables. Et des fois, voilà, je ne sais plus pourquoi je redis ça, mais en gros, voilà, c'était une bûche, encore, que j'ai senti que Dieu me demandait, et ça valait le coup. Autre chose, un autre aspect, je vais là. Alors, je suis encore deux, mais j'ai un petit détail. C'est que ces bûches-là, en effet, elles peuvent, elles se consument, Dieu les utilise. Et il y a ce côté, quand vous faites du feu, où il faut nourrir le feu. En fait, le feu, c'est jamais acquis. Il y a ce côté, c'est pas juste, je fais le feu et puis c'est bon. J'ai fait mon barbecue, maintenant je peux partir pour l'après-midi. Ce soir, j'aurai encore mon feu. Il y a ce côté où il faut l'entretenir. Et ça, c'est vraiment une des clés aussi dans la vie avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Et ça, c'est ce côté, toujours être là, auprès du feu, toujours chercher à chercher Dieu. Ce verset qui dit, dans, je vous donne les références, mais... Approchez-vous de Dieu, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ça, c'est vraiment une clé aussi de se dire, mais Dieu, nous, ce n'est pas un Dieu qui est là-haut et nous en bas. C'est un Dieu de relation. Quand il a créé Adam et Ève, il était en relation avec eux. Et c'est toujours ce qu'il veut aujourd'hui parce que c'est un Dieu d'amour. Et en fait, c'est comme dans le couple, si on ne cultive pas cette intimité, si on ne met pas des bûches des fois dans notre couple, eh bien forcément, elle va s'arrêter, quoi. Et il y a vraiment cette intentionnalité de remettre des bûches, de nourrir ce feu et d'être acteur à chaque fois, plus encore et encore. Et le roi David, donc dans la Bible, David était ce qu'on dit le roi selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est un des rois qui a été un exemple par rapport à son cœur. Il a fait plein d'erreurs, il a fait plein de péchés, mais son cœur était un cœur qui a plu à Dieu. Et le roi David a dit lui-même dans 1 Chronique 21, verset 24, « Je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'ait rien coûté. » C'est-à-dire que même dans les sacrifices qu'il faisait, il ne voulait pas donner de l'argent, parce qu'à un moment donné, on lui a proposé, « Mais oh, on a gagné du butin là, ben, on peut donner ça à Dieu en sacrifice, c'est pas mal, il y a pas mal de valeur. » Ben, lui dit non, un sacrifice, il y a une partie de moi qui, moi, je veux donner à ce Dieu que j'aime. Parce que dans ça, il y a une puissance aussi. Il y a une puissance qui va faire que Dieu, il va honorer ce pas de foi, qui va honorer les motivations de mon cœur. Et c'est ça l'essentiel, parce que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Donc, voilà, nourrir le feu et lui donner de mon meilleur bois, entre guillemets. Et le troisième aspect que je voulais développer et qui m'a vraiment touchée quand j'ai vu cette image, c'était s'attendre à Dieu au-delà du cadre. Et en fait, quand j'ai vu vraiment ces hommes et ces femmes venir comme ça à cet endroit, je me disais, mais eux, c'est pas comme nous à l'époque où ils n'ont pas reçu de flyer, ils n'ont pas reçu une invitation avec programme, réunion 1, le contenu, réunion 2, tel truc. Ils n'ont pas choisi, ils ne sont pas dit, bah, je vais venir plutôt à la soirée parce que voilà, ou plutôt le matin. Non, non, non. Ils ne savaient pas. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas bon ce qu'on fait. Mais j'ai dit qu'il y avait une partie de simplicité et d'attente de Dieu, que peu importe comment ça allait se passer, peu importe la forme, peut-être qu'il y en a certains, honnêtement, ils ne savaient peut-être pas où ils allaient mettre les pieds, mais ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont dit, mais ce Dieu dont j'entends parler, ou ce Dieu que je sers et que j'aime, malgré la persécution, parce qu'il faut bien dire, je ne sais plus si j'ai dit, ce peuple a été persécuté, malgré ça, ils étaient prêts à tout pour voir Dieu, quoi. Et leurs attentes de Dieu était au-delà de leur cadre. Et je pense que ça, c'est un point hyper important parce que nous, on peut souvent avoir certaines attentes ou certaines limitations qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher de voir Dieu, de voir le feu de Dieu dans nos vies. Et un feu, le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à ça, si vous faites un feu, il sera arrêté par les parois du foyer. Si vous faites un feu dans votre poêle, ben, le feu, il va rester dans le poêle, bien d'accord, il y a les parois, voilà. Si vous le mettez dans un feu, ma grand-mère, elle avait une cheminée ouverte, et là, donc, on faisait le feu là, c'était fermé que derrière, et des fois, ben, le feu, il débordait un peu, donc nous, on repoussait les bûches qui étaient tombées parce que le feu tombait sur nos pieds, ou brûlait un peu le tapis de mamie, donc on remontait le feu, on poussait les braises, c'était à nous de le canaliser un peu plus. Mais le feu va s'arrêter là où on lui met ses limites. Si vous faites un feu, ben... voilà, les incendies en forêt ou peu importe, ben là, ça peut se transformer en un brasier. Quand il n'y a pas de limitation, le feu peut même faire des kilomètres de large, des kilomètres de haut, enfin, ou des mètres de haut en tout cas, le feu s'embrase. Et en fait, c'est vraiment pareil dans nos vies. Vraiment, Dieu m'a parlé que si on met Dieu dans une boîte ou dans nos cadres, forcément, il va y rester. Mais dans ces cas-là, il ne peut plus se manifester comme Dieu. Ça va être un Dieu que moi, je me façonne, qui est pas mal, il me correspond. Mais, voilà, disons, Dieu est Dieu. Et laissons Dieu être Dieu. Et à un moment donné, Dieu peut aller au-delà de nos attentes, au-delà de nos limitations. Et qu'est-ce que ça peut être ? Ben, concrètement, mes limitations, ça peut être la conception que j'ai de Dieu. Comment est-ce que je vois? Ça peut être les déceptions que j'ai eues avec Dieu. Il y a eu des fois, pour moi, j'ai perdu un oncle d'un cancer quand j'étais jeune. Et dans ma tête, je me suis dit, mais Dieu, il peut guérir tout, mais pas un cancer. Et cette façon-là, j'ai grandi avec ce mensonge. Et j'ai dû après me repentir vraiment devant Dieu en disant, mais Seigneur, pardon, j'ai pas compris pourquoi tu l'as repris, lui. Mais je crois que tu peux guérir des cancers. Et depuis, j'ai vu un cancer guéri. Et c'est là où je me dis, Dieu, c'est un gentleman, il va forcément aller là où on lui ouvre la porte. Il va forcément aller dans le foyer que nous, on lui propose, le poêle de cheminée. Mais si on le laisse aller plus loin, il va prendre de la place. Et donc, ça peut être voilà, notre conception, ça peut être des déceptions qu'on a eues. Voilà, Dieu n'a pas répondu à cette prière. Ou Dieu. Et c'est vraiment un encouragement. Une déception, c'est important de ne pas la nier. On a été déçus, on a le droit. Et ça fait partie de la vie. Mais une déception, c'est bien de l'amener à Dieu. De dire, ben voilà, je n'ai pas compris. Ça m'a fait mal. J'ai souffert. Je ne comprends toujours pas. Mais je te donne ça, Jésus. Je le donne à la croix. Et je te fais confiance que tu peux prendre ça et que tu peux transformer la situation, que tu peux faire quelque chose avec. Et là, une déception bien gérée ne laisse pas la place à des mensonges qui viennent et qui après deviennent des croyances et qui sont des faux fondements pour notre feu. Et c'est vraiment un encouragement à bien gérer aussi. Si vous avez, voilà, j'imagine dans plein de domaines de notre vie, si vous avez eu des déceptions, soyez honnête envers Dieu. On a le droit d'être honnête, on a le droit d'être en colère, on a le droit de sortir notre souffrance et de la déposer. Et là, c'est là où Dieu peut agir et peut faire quelque chose. Éphésiens 3 nous dit, alors, je vais lire le verset 20, mais je vais lire un peu les passages avant parce que souvent on oublie. Dieu est d'abord un Dieu d'amour, ok? Donc tout ce qu'il fait pour nous, par nous, avec nous, c'est par amour pour nous. Et Éphésiens 3 nous dit donc, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc les saints, c'est tous ceux qui ont choisi de, qui ont accepté Christ dans leur vie. On n'est pas parfait, mais on est saints. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et il y a vraiment ce côté que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on imagine, si on lui laisse la place, si on enlève ses pourtours de cheminée. Dieu peut faire au-delà, par amour. C'est bien dit avant, par amour. Et encore, Ésaïe 55, versets 8 à 9 nous rappelle, car mes pensées, donc c'est l'Éternel qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et je pense que souvent, on se limite à notre conception de Dieu, qu'est-ce qu'il pourrait faire, comment il pourrait faire. Et c'est vrai que moi, souvent, je me dis, ah Jésus, j'aimerais que tu fasses ça, comme ça, à ce moment-là, ça serait trop bien. C'est génial, mais je ne suis pas Dieu. Et Dieu est Dieu, et il peut faire encore plus. Et des fois, ce n'est pas au moment où j'aimerais le faire. Et j'ai un exemple, encore pour imager. On essaie, en famille, donc, de passer du temps avec nos enfants, avec Dieu. Et donc, des fois, moi, je dis, oh, allez, samedi, c'est un peu notre temps en famille. Allez, on va passer un temps, ça vous dit, les enfants, on va chanter des chants et tout. Et comme par hasard, ce matin-là, j'ai pas envie, oh non, pfff. Voilà, on se dispute, mais quoi, t'aimes trop jouer du djembé et tout. Oh non, mais là, je veux pas. Voilà, et c'est vrai, le truc cacafou de bon, ben alors on va lire une histoire. Et puis là, ouais, non, on se déchire la page de la Bible. Enfin, vraiment, le truc, je dis, waouh, c'est pas trop ce que j'imaginais là. Mes attentes là, voilà. Et à un moment donné, je dis, bon, ok, bon, on va pas forcer, c'est pas grave, tant pis, Seigneur, t'es au-delà, voilà. On laisse tomber. Mais moi, je m'étais dit, de telle heure à telle heure, Dieu devrait se manifester, ok, on va faire le truc et tout, ça va être génial. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être intentionnel, mais j'ai envie de dire, voilà, laissons aussi Dieu faire. Bref, on avait une journée comme ça, où franchement, ça a été misérable. Je dis, bon, c'est pas grave, tant pis, Seigneur, tu sais. Le soir, avec Olivier, on passe un petit temps dans le salon. Donc, ils étaient couchés. On se dit, ah, enfin, et tout. On va prier un peu ensemble et tout. Donc, on prie, on passe du temps à prier. Et puis là, on entend. Oui. Et là, on dit, oui, mes chéris, qu'est-ce que vous voulez? Et puis là, ah, mais je ne sais plus quoi. Je veux de l'eau, je veux une fois, deux fois. Et puis après, je me suis dit, mais Dieu est Dieu. Moi, je m'attendais à ce que Dieu se manifeste ce matin. Peut-être que là, Dieu veut se manifester maintenant, hein, mes enfants. Et du coup, mais qu'est-ce que vous faites? On était à genoux. On était à genoux par terre en train de prier. Je dis, ben on prie, vous voulez prier avec nous? Ah ben ouais. De suite, ils se mettent à genoux. Et ah, Seigneur, ils se sont mis à prier. Prier pour nous, prier pour Olivier, prier pour moi. On a prié pour eux. On a passé un temps de prière en famille, comme jamais. Ça n'a pas été hyper long, hein, mais ça a été intense. Et Dieu, je veux dire, c'est comme si, enlevons nos casquettes de nos attentes de Dieu, il devrait se manifester comme ça, ou ça m'arrangerait comme ça. Non, là, ça ne m'arrangeait pas. Bah, écoute, après tout, c'est pas grave. En tout cas, c'est un moment gravé dans nos cœurs, dans le cœur de nos enfants. Et voilà, Dieu est Dieu. Et je pense de vraiment nous encourager à laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Parce que lui sait, et nous, on ne sait pas. Et donc, pour conclure, donc je ne sais pas si, voilà, je suis claire, mon petit feu. J'espère qu'il est un peu plus grand dans nos vies, mais voilà. Dieu veut et a vraiment le désir de se manifester, vraiment d'amener sa présence et sa puissance dans nos vies, au travers de nos vies. Et ce feu-là, je peux vous dire, si on enlève les barrières, si on enlève, il est forcément contagieux. Il est forcément, je veux dire, un objet qui est proche du feu peut fondre, même s'il n'a pas été directement touché le feu. Et je veux dire, si on est embrasé pleinement de ça, mais nos voisins, tout le monde peut. Olivier, souvent, il me dit, en fait, avant que je le rencontre, j'étais un peu glaçon. J'étais assez froide. Et en fait, c'est rigolo parce que, mais du coup, c'est vraiment le comparable à ça. Olivier était tellement plein d'amour, affectueux et tout, que du coup, il dit, ça m'a fait fondre. Et c'est vrai, en fait. Et du coup, non mais c'est vrai, c'est comme si juste par la manière dont il était, certaines barrières, certaines choses ont changé dans ma vie et l'amour de Dieu est venu encore plus dans ma vie. Et en fait, c'est un peu ça, la chaleur d'un feu en nous peut faire fondre par amour ceux qui sont autour de nous. Et l'amour, c'est ça, c'est juste toucher un cœur qui a besoin d'être consolé, c'est juste guérir quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Et donc, en gros, voilà, c'est vraiment avoir soif de Dieu, avoir un espace. J'essaie de faire un espèce de truc dessous, là. Un espace pour vraiment où Dieu peut avoir toute la place dans notre vie. Une attente de Dieu, une soif de Dieu, que peu importe les circonstances, peu importe, Dieu va venir parce qu'il aime ceux qui ont soif. Les bûches, c'est tout ce que je vais donner de ma vie. C'est tout ce que je vais. Des fois, ça va coûter, des fois, c'est des sacrifices, des fois, ça va être du temps, des fois, ça peut être de l'argent, des fois, ça va être. Voilà, c'est mon adoration, ça peut me coûter. Mais c'est ça qui va permettre à ce feu de m'embraser et d'enlever toutes ces limitations qui vont faire que ce feu peut passer peut traverser les siècles, peut traverser les villes, peut traverser les familles et peut toucher les cœurs. Donc c'est vraiment ma prière et vraiment ce que Dieu m'avait parlé. Et donc j'ai juste envie de prier. Si ça vous a parlé, donc c'est un message un peu particulier parce que c'est vrai que c'est parti de voilà d'une vision de quelque chose, mais si vous avez vraiment un cœur, je pense que j'ai vraiment envie de prier pour ces trois aspects-là. Si vous sentez que vous avez besoin que cette soif de Dieu en vous soit plus grande, que cette soif de Dieu soit, que ce soit pas juste un petit flacon, soit pas juste un petit vase, mais que ce soit vraiment un camion ben, quoi, un conteneur, un truc énorme pour que Dieu vienne se manifester, que vous puissiez faire de la place dans votre cœur, dans votre vie, que Dieu devienne votre priorité et qu'il ne passe pas entre les autres priorités. Si ça vous parle, je vous encourage à vous lever. Vraiment, on est entre nous, ok. Voilà, faites que c'est vraiment entre chacun entre Dieu et vous. Si vous avez envie de grandir dans cette soif de Dieu, je vous encourage à vous lever. Et l'autre aspect, c'est vraiment si vous sentez que vous aimez Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à donner certaines choses de votre vie. Vous sentez que je l'aime, mais j'aimerais suivre Dieu sans que ça me coûte, sans rien changer. Et que vous sentez que Dieu, peut-être, vous demande de passer un cap, de lui donner quelque chose de plus, de vraiment peut-être payer le prix dans un certain domaine de votre vie, peut-être de sacrifier, faire un sacrifice beau un sacrifice pour lui, mais que vous sentez qu'en effet, il y a peut-être un cap à passer, ça va coûter, mais le résultat, le fruit sera là. Mais je vous encourage aussi à vous lever, on va prier aussi. Et pour ceux qui sentent que vous avez peut-être des attentes, vous avez peut-être certaines envers Dieu qui sont un peu limitées, ou certaines déceptions qui vous ont enfermé, qui ont enfermé vous, mais qui ont enfermé Dieu aussi, qui ont peut-être enfermé ceux qui sont autour de vous. Parce que souvent, les attentes, ce n'est pas que envers Dieu, c'est aussi envers nous, envers les autres. Et ça empêche Dieu d'agir. Ça empêche Dieu d'être pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu, mais ça l'empêche Dieu de se manifester pleinement. Et ça aussi, je vous encourage, ça vous parle. Si vous choisissez de vraiment ôter ces barrières, ôter ces fausses parois, de vraiment vous lever aussi et on va prier.